À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question d'une actrice, une comédienne extrêmement populaire, une des plus populaires de Paris. À l'époque, au début du siècle, Ève Lavallière. Elle est morte en 1929. Après s'être convertie vers l'âge de 50 ans, elle avait été extrêmement adulée à Paris. Elle avait eu des amants extrêmement riches. Elle était poursuivie par des princes, des ducs. Elle était vraiment l'étoile, pour ainsi dire, des comédies de boulevard et puis des pièces assez légères. Mais parfois, elle a joué des pièces importantes. C'était une grande actrice fantaisiste à Paris que Ève Lavallière. Mais sa vie est marquée par la tragédie. Vraiment, c'est une vie. On en ferait un film, on dirait que c'est pas possible. Mais c'est pourtant tout est authentique. Il y a un drame sanglant effrayant qui a marqué sa famille, oui, puis sa jeunesse. Il y a eu ensuite le désespoir, elle se sentait abandonnée, elle était vraiment abandonnée, elle a songé plusieurs fois au suicide. Puis il y a eu la maladie aussi. Puis il y a eu le spiritisme, l'ésotérisme, toutes sortes de choses comme ça qui l'ont bien déçue. Mais le spiritisme est à la source de sa conversion. Elle dit, « Un jour, c'est par le démon que je suis venu à Dieu. » Curieux. C'est par le démon que je suis venu à Dieu. Et c'est ce qu'Ève Lavallière aime rappeler aux gens qu'elle rencontre. Elle était d'origine italienne. Son père, Émile Fenoglio, tenait à Toulon, dans le sud de la France. C'est un port, Toulon. Une boutique de tailleur, un bon tailleur italien, quoi. Mais c'était un joueur, son père, un débauché, un alcoolique. Il allait jusqu'à brutaliser sa femme dans des accès de jalousie irraisonnée. Vous allez voir ce qui va se passer, c'est épouvantable. Leur fils, Léon, n'a pas 2 ans qu'en est, finalement, Ève Lavallière, qui s'appelait Marie Pascaline Eugénie. Eugénie, elle portait le nom de Eugénie Fenoglio. Elle est née le 1er avril 1866. Curieuse chose, elle est née au matin de Pâques. Et sa vie sera, à 50 ans, une résurrection. C'est la future, donc, Ève Lavallière. Il y a une atmosphère d'orage et de misère qui règne dans ce logis. Et la petite fille a une enfance maladive. Elle ne reçoit presque pas de tendresse. Elle est même accablée de punitions, des punitions injustes. Et pour échapper aux violences de son mari, il arrive à sa mère de se réfugier avec ses enfants à Perpignan. Perpignan, où elle est née. C'était la ville natale de sa mère. Un jour même, sa mère s'y fixe et son mari vient l'y rejoindre. La petite Eugénie, à ce moment-là, est devenue une élève intelligente et appliquée. Elle se prépare sérieusement à sa première communion. Et elle dit plus tard, je puis dire qu'il y eut alors sur terre une enfant idéalement heureuse, qui ne se souvenait plus d'avoir été blessée et humiliée, et qui aimait sa mère. Et au miracle, elle en était aimée. Et c'est curieux comme on trouve même chez des incroyants, en France, on voit ça dans des textes. Ça doit exister ici aussi. Le plus beau jour de leur vie, disent-ils, c'est le moment de leur première communion. Mais pourtant, ils n'y croient plus. Et elle est revenue à la foi, mais se souvient de ça. Revenons à son histoire. Bientôt, Eugénie, petite fille, ne pense plus qu'à organiser dans une maison amie des représentations théâtrales. Elle devient donc une petite actrice, elle est costumière, elle est metteur en scène. En 1881, la famille revient à Toulon. Et 2 ans plus tard, c'est un nouveau départ pour Perpignan, parce que la mère n'en peut plus avec son mari. Et puis, Eugénie devient apprentie dans la mode, bien qu'elle soit très jeune. Parfois, le mari survient, il est défiant, il est furieux. Et le drame survient, le grand drame survient le dimanche 16 mars 1884, à la suite d'une discussion. Son père tire plusieurs coups de revolver sur sa femme qui s'écroule. Il menace Eugénie, la petite qui est terrorisée, mais finalement il dirige son arme contre lui-même, se suicide. Et ce drame horrible la laisse orpheline. Ça a eu sur le système nerveux de cette petite fille de 8 ans une répercussion profonde. Des hallucinations qui hantent ses nuits sans sommeil. La marraine de sa mère l'avait recueillie, mais elle était trop austère. Elle n'a pas su s'en faire aimer. Eugénie s'enfuit donc chez son tuteur. Son tuteur qui finalement l'accueille après des péripéties avec bonté. Les difficultés s'accumulent. La petite Eugène, petit rêve Lavallière, qui veut gagner sa vie, entre donc chez une modiste. Mais les assiduités du mari, qui veut absolument coucher avec elle, la forcent à partir pour Marseille, toujours dans le sud de la France, où son grand-père maternel est épicier. Il vient se remarier malheureusement, et sa femme ne veut pas se charger de Eugénie. Alors, le grand-père lui donne un petit peu d'argent et l'adresse d'une parente qui habite Nice, mais à bord du train, elle perd l'adresse et l'argent, l'adresse de sa tante à Nice. Alors, quand elle arrive là-bas, elle se glisse hors de la gare à Nice, et puis elle ne sait pas où aller. Elle s'assoit sur un banc, elle se demande comment trouver du travail, puis un passant qui s'approche, qui la questionne. Il l'amène chez sa tante, qu'il connaît heureusement, et qui dirige un pensionnat, mais cette directrice de pensionnat, sa tante, ne veut pas auprès de ses grands-fils dans sa famille, de cette jolie nièce qui a des ascendances inquiétantes, puisque son père a tué sa mère et s'est suicidé. Alors, malgré les instances du protecteur improvisé, le type qu'elle a rencontré dans la rue, sa tante, Madame Fenoglio, ferme sa porte. Et puis, elle renvoie Eugénie chez un cousin qui est cordonnier dans la ville. L'accueil est chaleureux, mais la boutique est sale et pauvre. Puis, le fils du cordonnier, son cousin, qui est simple d'esprit, est un petit peu trop galant, encore les histoires de sexe. Hein. Et quand Eugénie sort pour lui échapper, elle se heurte à ses cousins, d'autres cousins que rien ne décourage, ils la veulent tous. Une fois encore, elle se sauve, mais elle ne sait trop où aller. Elle s'assoit près d'un bassin, vous savez, là où il y a des fontaines comme ça, hein? Un bassin. Elle décide de s'y jeter, si personne ne lui vient en aide. Mais heureusement, il y a un voyageur de commerce qui vient à elle. Puis, sans abuser de sa candeur, il l'amène au restaurant, puis à l'hôtel. Il est gentil pour elle. Et le lendemain, il l'amène même au théâtre. Et elle lui confie son attrait pour le théâtre. Elle lui dit combien elle apprécierait de devenir actrice. Alors, il la présente au directeur de la troupe, qui est son ami. Et heureusement, elle est engagée. Ça commence. Alors, jusqu'ici, Eugénie Fenoglio, Ève Lavallière, là, a été respecté, heureusement, mais il y a un bonhomme de 50 ans qui est sans scrupules, qui remarque son charme un peu piquant, et sans réfléchir, ben elle accepte le luxe qu'il lui offre. Elle est jeune. Elle cède à ses instances, parce qu'elle n'en peut plus. Et dans la mode, ben ses compagnes l'appelaient Lavallière. Pourquoi? À cause de son goût pour, vous savez, les cravates flottantes, là, on ne noue pas ça, on appelle ça une Lavallière. Alors, elle adopte ce nom comme actrice et bientôt elle abandonne la villa de son amant où elle est à la fois esclave et reine. Elle se rend à Paris, c'est en banlieue de Paris, ça. Et un professeur de diction, frappé de ses étonnantes aptitudes, lui donne des leçons. Il la fait entrer aux variétés à Paris. En 1889, à 23 ans, donc, elle figure dans la revue Paris Exposition sous le nom d'Ève Lavallière. Et déjà, elle est au seuil du succès quand le fameux Samuel, qui est très réputé dans le temps, Samuel, qui devient directeur de ce théâtre, des variétés, il la prend pour ami, disons. Alors, lui, on l'appelle le magnifique, parce qu'il aime le faste. Mais, comme ça arrive dans ces milieux-là, il est bon, il est d'esprit cultivé. Il mêle à sa vie faible des pratiques de piété, Oui, ça peut sembler curieux. Sa liaison avec Ève est coupable, d'accord. Ce qui ne l'empêche pas, en 1895, lorsqu'elle devient mère d'une petite fille, Jeanne, qu'elle va essayer d'élever tant bien que mal, ben, il lui met au cou une médaille de la Sainte Vierge. Hein? Oh, il y a des gens, je suis sûr, qui trouvent ça étrange. Mais, vous savez, c'est jamais ni noir ni blanc, c'est jamais tout. Quelqu'un qui est classé, disons, comme pécheur, peut être aussi quelqu'un qui a la foi. Mais il est très faible, on le sait, on en voit, on en connaît dans nos familles. Puis, on l'a peut-être été soi-même. De toute façon, aujourd'hui, on voit des chanteurs et des chanteuses qui portent des croix. C'est assez étrange. Alors, ces conseils éclairés aident la Lavallière à poursuivre son ascension artistique et les critiques louent ses larges yeux, comme c'est écrit comme ça, ses larges yeux étranges, sa voix d'enfant de cœur qui commence à muer, sa joliesse de gamin effronté, on dit aussi son jeu saccadé, imprévu, inoubliable, son sens du comique, si rare chez une femme. Mais elle fait couler des larmes dans l'oiseau blessé. Henri Bataille l'a défini comme une tragédienne des choses drôles. Son ironie, dit un autre, n'est que de la tendresse qui se défend. Quelqu'un lui dédie un poème qui se termine ainsi, « Parole d'un démon dans la bouche d'un ange ». Vous voyez le genre, c'est l'époque. Et dans les coulisses, un jour, Ève Lavallière reçoit sur la tête un lourd paquet de cordages. Alors il faut l'opérer, la trépaner, et puis couper ses beaux cheveux noirs. Elle doit les garder courts pendant un bon bout de temps. Ça lance la mode, vous savez, c'est elle qui a lancé la mode des cheveux courts. Ça dure encore, on voit encore des femmes qui portent les cheveux très courts. Après cette mise à l'écart forcée, eh bien, Ève Lavallière s'aperçoit que son Samuel la trompe. Et elle refuse de reprendre avec lui la vie en commun, parce qu'elle l'estime quand même. Elle est jalouse. Elle est blessée. Mais il continue quand même d'entretenir des relations de confiance, puis d'amitié. Et cette déception l'atteint profondément. Alors, Ève Lavallière tombe gravement malade et doit être opérée. Perspective qui la fait réfléchir. « Ce n'est pas de mourir que j'ai peur, » dit-elle à la religieuse qui la soigne à ce moment-là. « Je ne suis pas heureuse sur cette terre. »« Ce qui me préoccupe, » ajoute-t-elle à la religieuse, « c'est de faire une bonne mort. Et si je suis une comédienne, je suis avant tout une chrétienne. Et je vais finir comme telle. » Alors elle se confesse, bon, une première fois. Elle passe plusieurs jours dans le recueillement, puis elle assiste au Magnificat, le chant à la Sainte Vierge, là, qui célèbre sa guérison. Puis elle dépose une rose rouge au pied de la statue de la Sainte Vierge. Au lendemain des grandes représentations, même, ça lui arrive d'envoyer volontiers à l'autel de Notre-Dame les fleurs dont sa loge déborde. Et là, c'est la gloire. Elle a atteint la gloire. Elle est reconnue partout dans Paris comme une actrice de premier rang. À Ève Lavallière, qui est prise dans les griseries des applaudissements, elle reçoit des tas de bouquets de fleurs. Les gens la poursuivent en lui faisant des déclarations d'amour, mais elle est insatisfaite. Il y a des princes et des ducs qui la sollicitent, qui sont prêts à tout lui donner. Elle lance un jour, en disant des choses un peu étranges que je ne répète pas en ondes, elle lance un jour un énorme diamant à la tête d'un maharaja qu'elle rejette. Elle dit à un homme qui proteste son attachement, « Eh bien, donnez-moi une preuve, ruinez-vous pour moi. » Elle est insolente. Alors, ni le plaisir, mais ni l'ivresse de la gloire ne lui procure la joie du cœur. Ça lui donne ça donne rien, tout ça. De toute façon, c'est tellement passager. Quand on voit la télévision dans la grande série Biography aux États-Unis, là, toutes ces vieilles actrices qui étaient des beautés, qui régnaient partout et qui meurent seules à 85 ans, toutes ridées, sans rien, espérons qu'elles ont trouvé le Christ et qu'elles ont trouvé un sens à leur vie, grand Dieu. Alors, elle voit Ève Lavallière avec effroi s'effriter sa jeunesse. Et puis, elle ne sait plus au juste où elle s'en va. Hein. À un moment donné, Ève apprend la mort de Samuel, le plus cher de ses amis, qui lui avait donné cette médaille de la Sainte Vierge. Et dans une maison au bord de la Tamise, En Angleterre, elle assiste à une soirée dansante. Autour d'Ève Lavallière se presse une nuée d'admirateurs. À l'annonce de ce décès, elle leur échappe grâce à l'obscurité du parc et elle se dirige vers le fleuve, vers la Tamise. Elle est prête à un geste définitif parce que le suicide l'a toujours hantée depuis son enfance troublée avec le suicide de son père, l'assassinat de sa mère. Et là, une invitée allume sa cigarette au bon moment, puis à cette brève lueur, elle craint d'être reconnue, elle regagne le salon. En 1915, on la revoit à Paris. Elle a 49 ans. Elle fait la connaissance d'une réfugiée belge de 19 ans qui s'appelle Léona Delberck. Et elle en fait son inséparable, sa confidence, sa confidente. Elle est bien de bonnes amies, quoi. Malgré la différence d'âge. C'est un peu comme sa fille, quoi. Et après tant d'aventures, Ève Lavallière s'éprend du comte, le fameux comte Amédée Descartes, C-A-R-S. Et leur rencontre a été un émerveillement, et en dépit de ses origines modestes, puis des rôles ambigus qu'elle a joués, Ève Lavallière est, au dire de Francis de Croisset, une petite princesse. Mais la famille noble Descartes prend peur d'une alliance aussi disproportionnée. Malgré les instances de l'actrice, on lui refuse l'entrée de la clinique où le comte Amédée Descartes se meurt des suites d'une blessure de guerre. Alors elle est chassée, pourrait dire, de son paradis terrestre, puisqu'elle s'appelle Ève, n'est-ce pas? Ève Lavallière. Alors Ève, à nouveau, tente de se donner la mort. Une circonstance où l'on peut voir une intervention surnaturelle l'empêche. Elle remonte sur les planches. Il y a même un contrat, à un moment donné, qui lui est proposé à Paris, un autre en Amérique pour y donner sa faux avec Lucien Guitry. Elle serait peut-être venue jouer ça à Montréal. Ève Lavallière est ébranlée dans sa santé par la mort de celui qu'elle aimait, Amédée Descartes. Puis, surtout par Samuel. Hein? Elle ne sait plus trop qui elle aime. Elle veut donc échapper au tumulte des boulevards à Paris. Et elle part se reposer en Touraine, la Touraine d'où viennent de nombreux fondateurs de l'Église du Québec. Elle y va avec son amie Léona, la jeune, là. À la fin de mai 1917, elle entre en relation avec l'abbé Châtaignier, curé de Champsaux-sur-Choisille. Et l'abbé Châtaignier, qui est un homme remarquable, était simple et direct. Puis lui dit, ah, quel dommage qu'une personne comme vous n'ait pas la foi. Et Ève Lavallière lui réplique comme ça, tout simplement, bien innocemment et très gentiment, mais qu'est-ce que la foi? Alors elle en vient à raconter ses expériences de spiritisme. Puis le pacte qu'à l'exemple du fameux Faust, elle a voulu conclure avec le diable, le prince des ténèbres. C'était pour reconquérir jeunesse et santé qu'elle avait fait ça. Elle était mêlée à des choses terribles, comme vous voyez. Il lui a été objecté que ce serait difficile de revenir sur tout ça, car elle était très, très en difficulté. Mais quand elle a voulu faire son pacte, de toute façon, on n'était pas très sûr qu'il puisse le faire, parce qu'on sentait qu'il y avait chez elle quelque chose de chrétien, peut-être. Et puis, comme elle n'a pas pu faire son pacte vraiment, totalement et complètement, elle en a conclu que le démon n'existait pas. « Eh bien, moi, je vous dis qu'il existe, lui dit le prêtre, le curé. Là. Prenez garde de ne pas vous trouver en face de lui. » Il la salue, il remonte sur sa bicyclette, il s'en va, et Ève demeure dans l'allée, clouée par la stupeur. C'est la première fois qu'on lui dit que le démon existe vraiment. Pour vrai. Et là, une lumière soudaine se fait en son esprit. Mais si le démon existe, alors, se dit-elle, Dieu existe. Et s'il existe, qu'est-ce que je fais sur la terre? Et qu'est-ce que je fais de ma vie? Le lendemain matin, le prêtre paraît. Mademoiselle, il lui dit, ce que vous m'avez confié hier m'a bouleversé. J'ai passé une partie de la nuit en prière afin d'avoir une inspiration à votre sujet. Alors j'ai célébré aussi la messe aux mêmes intentions. Il lui tend la vie de Sainte Marie-Madeleine, écrite par le père Lacordaire. Je vous ai parlé de ça le 21 novembre 1995. La cassette est disponible d'ailleurs. Puis je vous ai parlé de Sainte Marie-Madeleine au mois de septembre dernier. Alors il lui dit, lisez ce livre, vous verrez ce que le bon Dieu peut faire d'une femme comme vous. Alors, l'après-midi, Ève Lavallière commence tout haut la lecture. Puis, elle fait à Léona le récit de son enfance, qu'elle lui avait jamais raconté. Elle lui parle de sa première communion, puis, revenant à Sainte-Marie-Madeleine, elle récite, en s'étonnant de sa mémoire, les passages d'Évangile qui s'y rapportent. Une atmosphère de gravité enveloppe toute cette semaine, quand Marie-Madeleine essuie les pieds de Jésus avec du parfum. Alors, le dimanche 10 juin 1917, toutes deux retournent à la messe, et pendant le déjeuner, Léona s'écrie « Je voudrais faire ma première communion. Je n'ai jamais communié. » À son tour, elle raconte ses premières années, endeuillées par la guerre, qui a réduit à néant son éducation religieuse, comme tant de jeunes aujourd'hui ici à Montréal. Elle écoute avec émotion et promet d'en parler au curé. Elle lui dit « Je serai ta marraine et je communierai avec toi. » Alors, tout heureux, l'abbé Châtaignier se charge d'instruire la future catholique, la néophyte, la Léona. Il se dispose à partir quand Ève ajoute « Et moi, monsieur le curé, j'ai promis à cette petite de communier avec elle. » Alors, elle s'aperçoit que le curé hésite. Hein? « Oui, elle dit, je sais, je suis une pécheresse, je n'ai pas vécu en chrétienne, mais j'espère qu'il m'ait permis à moi aussi de revenir à Dieu. » Alors, tout en marchant à ses côtés, elle s'accuse à voix haute, et le curé semble un peu gêné. « Attendez un peu, mademoiselle, puis ne parlez pas trop fort comme ça, ne criez pas. » Alors, elle lui dit, « Mais pourquoi attendre? Le bonheur de Léona, ça ne peut pas être le mien. » Alors lui dit, « Le cas de Léona, il est simple, mais vous êtes Ève Lavallière, hein? Et votre vie a été publique, tout le monde vous connaît, et puis vous avez fait du spiritisme. Il me faut référer de tout ça à l'évêque. » Alors, Ève ne tient pas en place. Elle gémit, puis elle pleure, puis elle dit à Léona, « Que Dieu voudra encore de moi, ce que penses-tu que Dieu voudra encore de moi après une vie si méprisable? » Mais il y a la Sainte Vierge, hein, et puis elle aura pitié de moi, et je ne l'ai jamais entièrement oubliée, elle. Vois-tu, autrefois je l'aimais, j'ai eu le cœur bien gros quand ce médium m'a ordonné de renoncer à elle et de ne plus faire le signe de la croix. Il y a des livres publiés sur elle, hein. Du moins, je sais aimer, disait Ève Lavallière, publié chez Albin Michel, par Omer Anglebert. Oui, chez Albin Michel. Il y a une étrange vie aussi, publiée par Jacqueline Lenoir, Ève Lavallière aux presses de la Cité. Puis évidemment, il y a Ma conversion par Ève Lavallière, chez Gallimard. Puis, La vie et conversion d'Ève Lavallière, encore par Omer Anglebert, chez Plon. Et puis, il y en a quantité d'autres, on peut pas tous les nommer. Elle est fascinante, cette Ève Lavallière. Et à rencontre spirituelle, on peut parler aussi de Leibniz, de Bach, de Mozart, des saints, des fondateurs de l'Église au Québec, d'artistes, etc. Alors on arrive à la rencontre de Ève Lavallière avec Dieu. La cérémonie a été fixée au 19 juin. Ève Lavallière fait réciter son catéchisme à Léona pour qu'elle puisse se faire baptiser. Puis, en même temps, elle le réapprend. Elles disent ensemble leur chapelet. Elles écoutent les instructions du curé. Le 19 juin, il pleut. Dans l'église, on prépare une messe mortuaire. Alors, Ève fait la remarque, elle dit, on dirait un enterrement qui se prépare. Et, nous aussi, nous enterrons notre vie pécheresse. Alors, la veille, elle a demandé pardon à Léona des mauvais exemples qu'elle lui a donnés et puis des peines qu'elle lui a causées. Elle est sortie du confessionnal transfigurée. Elle revient à la Sainte Table. Alors, Ève dit à Léona, « N'étant plus de ce monde, je suis toute transformée. » Au presbytère, un petit déjeuner les attend. Elles reviennent par un beau soleil. Elle dit, « Ne trouves-tu pas que les champs ont de plus jolies teintes, que les fleurs sont aujourd'hui beaucoup plus belles? Et c'est vrai que quand on est en état de grâce, quand on est en amitié avec Dieu, quand on est bien conscient que Dieu, notre Créateur, celui qui nous a fait pour nous rendre heureux, et tout nous semble plus beau, la joie nous habite. » Alors maintenant, Ève Lavallière part chaque matin pour la messe, ses heures s'écoulent en prière, en lecture, Puis en toutes sortes d'actes de charité, il s'occupe des autres. Alors, qu'est-ce qui se passe à Paris pendant ce temps-là? Les gens, les grands critiques, les journaux, se disent « c'est une fantaisie, elle est tombée sur la tête ». C'est un nouveau rôle qu'elle a trouvé, et elle le joue rudement bien, etc., etc. Le curé lui-même, il n'ose pas croire à un revirement aussi absolu. Et quand Ève Lavallière parle de renoncer au théâtre, le curé lui-même l'engage à ne prendre aucune décision prématurée. Mais elle décide de résilier son contrat pour l'Amérique. Puis elle lui dit... Elle dit plutôt à Léona, « Laisse-moi seul, j'ai besoin de prier. » Tu comprends cette lettre? C'était dur à écrire, cette lettre de résignation-là. Elle est plus dure encore à envoyer, dit Ève Lavallière. Elle me fait mourir au théâtre. Et ne plus jouer, ce ne sera pas facile. Alors l'enveloppe à la main, elle fait le tour du parc, puis elle appelle le jardinier, puis elle le prie de porter la lettre à la poste. Et quand elle revoit Léona, elle lui dit, « Maintenant, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, jamais on ne verra le nom d'Ève Lavallière sur une affiche. » « Jamais je n'aurais cru, dit-elle, qu'on pouvait connaître. Connaître le grand amour sans volupté. Mais je sais maintenant, pour l'avoir éprouvé, que les suprêmes ivresses de l'amour ne tiennent pas à la chair. Elle est vraiment convertie. » Alors Ève Lavallière cherche à sa vie un sens définitif. Alors là, elle pense à rentrer au cloître. À la fois comme un refuge contre les tentations, puis un asile de recueillement, mais le curé ne croit pas à sa vocation religieuse. D'abord, elle doit s'occuper de sa fille, Jeanne. Elle la rejoint dans les Vosges, au château de Saint-Balma, dont Jeanne a hérité de son père, le fameux Samuel, le magnifique. Avant d'aller à Lourdes, comme le lui recommande son conseiller, Ève se rend à Paris, elle vend son hôtel particulier et somptueux, puis jusqu'à ses beaux vêtements. Elle est suivie de son chien. Elle monte dans le train avec peu de bagages. Elle dit « Je pars sans regret, sans détourner la tête, et je pars avec l'appui réel de Dieu. » Et cela, c'est une joie que personne ne peut comprendre, et que personne ne m'enlèvera. D'ailleurs, je suis l'éternelle orpheline de la terre, qui a toujours cherché, mais en vain, la nourriture de son cœur. Alors à Lourdes, Ève et Léona s'installent dans une pension qui s'appelle l'Immaculée Conception. Elle est venue pour se recueillir et elle se fait un règlement de vie où la prière a évidemment la part principale. Elle s'impose un lever tôt le matin, puis elle s'oblige à travailler. Elle fait son chemin de croix pieds nus dans la neige. Elle fait une neuvaine de bains dans la piscine glacée. Hein? Vous connaissez ça, les piscines là-bas, lourdes, là, les espèces de... C'est comme des petites piscines. Hein? Aidée de deux personnes. Et puis elle fait toutes sortes de préventions qu'entraîne évidemment le vœu de pauvreté qu'elle a prononcé. Alors on peut voir là une espèce d'exaltation, mais ce n'est pas de l'hystérie. C'est une sorte d'exaltation. C'est le fruit de l'enthousiasme amoureux d'une convertie... Hein? Qui manque peut-être un peu de mesure, mais c'est pas grave. Ça va tout se replacer. Il y a 3 jours, écrit-elle, j'ai eu une véritable dépression morale, mais c'est fini. Je me vois reparti de plus belle. Quelles que soient mes souffrances physiques et morales actuelles, je les aime. Et je préférerais mourir que de retomber dans ma vie passée. Alors, son désir de couvent se fait de plus en plus intense, et la conversion de ses amis, et surtout de son enfant, la hante là. Il faudrait qu'elle convertisse son enfant Jeanne, mais aucun monastère ne veut d'une postulante dont la ferveur peut être son lendemain, croit-on. Puis de toute façon, on pense que sa santé est ruinée. Et la prieure des Carmélites d'Avignon, qui est tentée de se laisser fléchir par une telle pureté d'intention, se rend compte que ce tempérament instable d'Ève Lavallière ne pourrait s'accommoder de la vie monastique. Malgré la douceur de ce refus, bien Ève Lavallière, désespérée, entraîne Léona dans une chapelle voisine, puis elle dit « Comment se fait-il? Quand je ne voulais pas de lui, il me poursuivait. Et maintenant que je ne veux que lui, il me repousse. Oh, je vais lui adresser mon ultimatum. » Mais la vue du Saint-Sacrement exposé l'apaise. Il me semble que Jésus me parle. Et qu'il me dit, ne pleure pas, Ève, cesse de te plaindre. Tu n'as pas trouvé l'abri dont tu rêvais chez les Carmélites pour y terminer ta vie. Mais dans mes jours mortels, n'oublie pas, je n'ai pas eu une pierre où reposer ma tête. J'étais errant, pourchassé, combattu. Le serviteur n'est pas au-dessus du maître, n'oublie pas ça. Parce qu'on y pense assez que Jésus était un itinérant. Au Carmel de Pau, c'est près de Lourdes, Pau, P-A-U, elles lisent toutes les deux cette inscription. C'est ici la porte du ciel. Alors Ève Lavallière soupire, c'est ici la porte du ciel et elle m'est fermée. Pourquoi faut-il que ces paroles me soient mises sous les yeux à moi qui ne demande, comme les religieuses, que de vivre caché au monde en aimant Dieu? Mais dans ces échecs, elle voit l'expression de la volonté de Dieu et elle n'arrête pas de combler d'au monde quand même les cloîtres où elle n'a pas pu entrer. Parce qu'elle a beaucoup d'argent, elle a tout vendu. Elle quitte Lourdes. Mais depuis qu'un mouvement d'humeur lui a fait trahir son identité, elle est assiégée de visiteurs. Alors à Paris, elle se réfugie, puis elle dîne dans la cuisine de son hôtel avec ses anciens domestiques. Oui, elle est de passage, puis les domestiques sont toujours là, alors parce que c'était vendu, ils ont gardé les domestiques. Après une halte à Champsaux, où il y a le curé, là, elle revient à Lourdes chez les dames de Nevers, hein, les sœurs chez lesquelles sont entrées Bernadette Soubirous, où son corps est conservé à Nevers, hein, n'est pas corrompu. Là, la supérieure des dames de Nevers à Lourdes devient pour elle une grande amie, presque une mère, ça lui l'aide beaucoup, ça. Léona doit aller à l'hôpital et Ève Lavallière y va aussi. Elle garde les malades, elle s'attache tout particulièrement à une jeune tuberculeuse, pupille de l'assistance publique. Puis, la religieuse, la mère Adéoda, lui dit en riant, « Vous faites votre purgatoire, une valise à la main. » Et de fait, Ève part pour Guétari. C'est là qu'a pris Georges Guétari son nom, c'est une ville basque. Elle y conquiert la famille d'Elbé, la grande famille d'Elbé, par sa simplicité, sa distinction, sa fantaisie d'artiste et surtout sa foi brûlante. Elle dit, « Je ne sais pas nager, mais si j'apercevais notre Seigneur à l'horizon, je me jetterais à l'eau pour aller à lui. En le nom de Jésus est pour moi un talisman. Quand je le prononce, je me sens comme embrasé. » Elle est vraiment amoureuse de Jésus. Et entre-temps, elle esquisse sur le sable un pas de danse. Et elle raconte des anecdotes amusantes. Au cours d'une promenade, elle fait une chute sur des rochers, puis ça lui occasionne de terribles souffrances. Et là, le médecin décèle une néphrite chronique incurable. C'est une condamnation à mort, sans savoir la date de l'échéance. Ceci au moment où elle espère toucher au but de ses désirs, en prenant Monseigneur le Maître pour directeur de conscience. Jésus veut tout pour lui. Avec quel amour on lui donne tout? 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 Il a refait mon cœur au contact de son corps divin que je reçois chaque jour. Et mon âme de misère s'adoucit et tremble à son contact. Comme un oiseau frileux que l'on tient dans la main, avec Jésus il semble qu'on pourrait porter le monde. Sans lui, un grain de sable nous fait trébucher. Alors elle passe par Marseille, Toulon, La Sainte-Baume, Nice, Sanary, Paris, puis en septembre 1920, installation à Tuilière. C'est là qu'elle va finir ses jours. C'est dans les Vosges, en Lorraine, c'est près d'Épinal, Don Rémy, La Pucelle, etc. Et sur le bord de la route, comme des nomades, nous camperons là, prêts à partir au moindre signe, dit-elle. Cette maisonnette qui est bâtie entre un jardin potager puis un verger est égayée de roses. Hein, elle appelle cet endroit Béthanie. Hein, c'est là que Jésus allait se réfugier. À Béthanie, chez Lazare, Marthe et Marie, il y a une statue du Sacré-Cœur qui surmonte l'entrée. Il y a un bois qui l'avoisine. C'est le calme. Puis il y a le soleil. La vue est magnifique. Ève embellit l'église du village. Elle dote la paroisse d'une bibliothèque. Puis elle monte une chorale. Mais les potins circulent, les curieux affluent. Elle est connue. Le curé croit devoir l'écarter, d'où l'humiliation, la souffrance, les privations surnaturelles. Aux difficultés habituelles s'ajoute évidemment le frottement des caractères entre elle et Léona, parce que leurs natures sont différentes quand même, puis leurs intelligences, puis leur âge aussi. Le 19 septembre, elle devient, dans le tiers-ordre franciscain, sœur Ève-Marie du Cœur de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'elle entre en religion, ça, elle est laïque, elle demeure laïque, mais elle prend ce nom qui est un nom personnel, elle ne portera pas le nom en public. Ève-Marie du Cœur de Jésus. Comme lui, comme Saint François, elle aime les fleurs et les bêtes. Et se séparer de son chien lui a été un déchirement. Des larmes coulent de ses grands yeux quand elle lit l'Évangile, des prières admirables s'échappent de sa plume. Elle écrit « Sainte face de mon Dieu, je vous adore. Vous m'avez tiré du néant pour votre gloire et j'ai corrompu l'ouvrage de vos mains. Ô Seigneur, Seigneur, je jette ma misère dans l'océan de votre sainteté. Faites-moi vivre. De moi-même, je ne sais que mourir. Monseigneur le Maître dira, je ne l'ai vu reculer devant aucun sacrifice. Monseigneur le Maître devient archevêque de Carthage, en Afrique du Nord. Il enrôle Ève et Léona parmi les infirmières de Notre-Dame de Carthage. Sans costume ni vœu particulier, il avait fondé pour le soin des malades et le relèvement de la femme arabe. Alors elle passe en Tunisie les hivers de 1921 à 1924. Elle est terrassée par le paludisme. Ève ne peut supporter que sa petite part. L'inaction généreusement acceptée par une âme avide d'activité devient une des plus belles formes d'amour, dit-elle. Alors on lui confie, pour leur enseigner les chants sacrés, les élèves des sœurs. « Elle est belle comme un ange », s'écrie l'une d'elles. Pour les distraire et la leur faire jouer, Ève compose une pièce où on retrouve enfer et paradis avec les saints puis leurs animaux favoris. Elle écrit « Jésus nous promène, nous fatigue, pour nous faire moissonner des fleurs de patience, d'obéissance et surtout d'abandon ». Elle s'est confiée à la Sainte Vierge, qu'elle appelle le chef-d'œuvre de Dieu. Elle lui demande son cœur pour l'aimer. Elle a imploré Saint Joseph pour obtenir le don de l'oraison, lui, l'homme du silence. Elle dit, je vis dans un miracle, l'oraison c'est mon palais. J'y trouve, ou je n'y trouve pas, celui que j'aime et que j'y viens chercher, mais qu'importe si je ne le trouve pas. J'y viens, fidèle au rendez-vous. Je reste parfois seul pendant longtemps dans les ténèbres, mais avec toujours au fond du cœur la petite veilleuse de la foi, de la confiance et de l'amour. Oh, mon bon maître, qu'en ferez-vous de cette petite veilleuse un phare qui éblouit? Oh, Jésus, votre nom est comme du miel sur mes lèvres. Oui, rien qu'à le prononcer, je me sens toute purifiée. En août 1926, Ève Lavallière, donc presque 3 ans avant sa mort, a à Tuilière la visite de Robert de Flers, ce fameux auteur dramatique très populaire à l'époque. Elle a interprété plusieurs de ses pièces. Et puis, il déclare dans son visage pâli, les yeux ont gardé une ardeur qui s'est faite ferveur. Il regarde plus loin, plus haut. Les mains d'Ève Lavallière sont très amaigries et se joignent comme d'elles-mêmes. Aucune de ses paroles ne s'éloigne de la véritable simplicité. Chacune d'elles révèle la perfection de sa vie intérieure. Elle est toute modestie et toute humilité. Alors Ève Lavallière lui confie que les médecins ne s'expliquent pas qu'elle soit encore de ce monde, mais elle est heureuse. Elle dit qu'elle est heureuse même de souffrir. Son enfant, Jeanne, revient vers elle et paraît s'amender. Mais il lui faut s'en séparer à jamais. Le dépouillement continue. Elle écrit « Que Dieu sauve mon enfant, je ne mérite pas d'être mère. » Et ses largesses qui l'ont ruinée, la met au bord de grandes difficultés. Le curé de Champsaud lui ouvre sa bourse, mais elle refuse l'argent du curé. Elle éloigne les journalistes qui viennent sans nombre et qui lui proposent un chèque en blanc en échange du récit de sa conversion. En expiation de ses fautes, elle a offert chacun de ses membres. Elle peut à peine marcher, à peine manger. Sa bouche et ses yeux sont infectés. Il faut lui arracher les dents. Il faut l'opérer à l'estomac. Il faut coudre ses yeux avec un fil d'argent, sans l'insensibiliser. Imaginez, Dieu le veut ainsi, à nous deux, mon Jésus. C'est l'amour qui l'a saisi. Seuls quelques gémissements trahissent ses souffrances, et son œil droit est délivré, heureusement, en juin 1929. Léona, qui est devenue Madame Aumain, habite la maison avec son mari et continue de soigner Ève Lavallière. Ève Lavallière évoque devant elle ses camarades d'autrefois. Et elle dit, que ne peuvent-elles voir les choses comme je les vois maintenant? Que ne peuvent-elles comprendre? Où est le véritable bonheur? Et qu'on peut servir Dieu dans tous les états, dans tous les états. Pas nécessaire d'être une grande actrice. Ça ne donne rien. Je prie, dit-elle, tant pour elle toute. Je prie aussi pour toi, ma petite Léona. C'est toi qui m'as le plus aimée. Chante, je t'en prie, pour que je ne m'endorme pas et que je pense à Dieu. Ah, j'ai soif d'arriver là-haut et de voir Jésus. Saint-Joseph, mon bon Saint-Joseph, viendra bientôt me chercher. Oui. Oh, Jésus, que doit être le ciel? Si j'en juge par ces courts instants où mon âme n'est plus de ce monde, où mon bonheur ne peut se définir, car les mots sont finis et mon bonheur est infini. Alors au matin du 9 juillet 1929, elle reçoit une dernière absolution, puis à chaque parole, elle passe la main sur le crucifix qui est couché à sa gauche. Et si on l'approche de ses lèvres, elle l'embrasse. Et elle fait comme Pier Giorgio Frassati, vous vous souvenez lundi? Ce jeune homme de 24 ans faisait la même chose. Le 10 à 3 heures du matin, Ève Lavallière est secouée d'un tremblement d'effroi et s'accroche à Léona. Mais au son des prières de l'agonie puis des litanies de la Sainte Vierge, oh les belles litanies de la Sainte Vierge, je voudrais que je vous récite ça un jour, le calme revient. Et là, le prêtre déclare, vous savez, au moment de la mort, « Partez de ce monde, âme chrétienne, au nom du Dieu qui vous a créé. » Au nom, et à ce moment-là, elle fixe de son œil unique la sainte face. Oui, la sainte face. Ève avec un sourire, Ève Lavallière avec son beau sourire, quitte ce monde où elle a tant souffert, et c'est un mercredi, jour de Saint-Joseph, patron de la bonne mort, et selon son désir, son amie Léona la revêt de la robe brune des franciscaines, des clarisses. Puis, elle met sur son cœur, à côté du crucifix, un lys, symbole d'innocence recouvré, comme Marie-Madeleine. Sur la fosse creusée contre le mur de l'église, une croix porte cette inscription, « Ève Lavallière, 10 juillet 1929, vous qui m'avez créé, ayez pitié de moi. » C'est une parole de Sainte Thaïs. Qui c'est, ça, Sainte Thaïs? C'est une courtisane. Oui, une courtisane, vous savez ce que c'est? J'ai besoin d'insister. Égyptienne, convertie par un ermite de la Thébaïde, du désert de Thébaïde en Égypte, et qui s'est retirée dans un monastère de femmes au 4e siècle. Thaïs est héroïne, vous savez, du roman d'Anatole France, en 1890, puis Massenet en a tiré une comédie lyrique en 1894. Ève Lavallière écrivait un jour, Seigneur, pour me créer, vous m'avez tiré du néant. Je vous rappelle, nous sommes faits de la même poussière que le sol, puis du néant presque. Puis tout ça est rassemblé, puis ça forme notre corps, c'est vivant. Ça parle, ça entend, ça pense et ça prie. Ça prie. C'est curieux, notre corps. Alors, Seigneur, pour me créer, vous m'avez tiré du néant. Et voilà en quel état de corruption j'ai mis votre ouvrage. Je me rends à vous. Faites-moi vivre. De moi-même, je ne sais que mourir. Ô sainte face de Dieu, je vous adore. Ce sont mes péchés qui vous ont ainsi martyrisé. Je me repens, je vous aime, je vous aime. Je me donne à vous. Je devrais être enfermé jusqu'à la fin de mes jours. Ne prononcez que ce mot, pardon, pardon, pardon. Croire, voilà ma force. Et aimer, voilà ma vie. Le reste, oh, qu'importe. La gloire, les succès, toutes les satisfactions de la vie, je les connais, je les ai eues. Il m'en reste un écœurement profond. Rien ne peut être comparé à une petite minute d'extase. Que doit être le ciel si j'en juge par ces courts instants où mon âme n'est plus de ce monde, où mon bonheur ne peut se définir? Je ne connais pas de mots pour l'exprimer, car les mots sont finis et mon bonheur est infini. Oh mon Dieu, je vous aime. Je vous aime.